Bonjour à tous, bienvenue dans Du Grain à Moudre d'été. Ce soir, le travail saisonnier, la précarité à tout bout de champ. La pluie brève mais drue qui aura irrigué une partie de la France ce vendredi n'était pas pour déplaire aux agriculteurs. Elle aura momentanément étanché la soif de la terre et des maïs suppliants et reverdi les pâturages. Peut-être aidera-t-elle aussi à retarder la véraison des raisins, de plus en plus précoce et qui désorganise chaque année un peu plus le calendrier des vendanges. Pendant qu'une partie de la France est en vacances, une autre partie récolte, ramasse, tire et cueille le melon de Cavaillon, la prune d'Agen, l'abricot du Roussillon, les pommes et les poires partout en France. Et comme chaque année, pour les aider dans cette grande collecte nationale, les exploitants agricoles s'entourent de centaines de milliers de saisonniers. Des hommes et des femmes de tous les âges et de tous horizons, certains sont là pour payer leurs études ou de futures vacances, d'autres enchaînent toute l'année les contrats allant où les saisons les mènent. Mais à l'heure de la réforme de l'assurance chômage qui va taxer l'utilisation des contrats courts et priver nombre d'entre eux d'allocations, va-t-on vers le crépuscule de l'emploi de ce type ? Et qui y a intérêt ? Qui sont les saisonniers aujourd'hui et l'agriculture pourrait-elle faire sans eux ? Le travail saisonnier est-il synonyme de précarité à tout bout de champ ? Nous recevons quatre invités ce soir exceptionnellement pour en parler. Bonsoir Alain Maurice.
Bonsoir.
Merci d'être avec nous. Vous êtes anthropologue, vous êtes directeur de recherche émérite au CNRS et vous avez longtemps travaillé sur l'emploi saisonnier depuis les années 80-90. Et au-delà, vous avez vu évoluer ses missions et ses statuts, ce qui sera précieux pour nous. Bonsoir Catherine Laurent.
Bonsoir.
Vous êtes économiste, directrice de recherche à l'INRA et vous avez participé à un groupe de travail coordonné par le ministère de l'Agriculture qui s'est conclu par un ouvrage collectif paru en avril dernier, Actif Agri, transformation des emplois et des activités en agriculture. Nous sommes également dans ce studio avec Ixchel Delaporte. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes journaliste indépendante, vous avez longuement enquêté dans le Bordelais, vous en avez fait un livre, Les raisins de la misère, une enquête sur la face cachée des châteaux bordelais paru aux éditions La Brune de Rouergue l'année dernière. Et enfin, nous sommes en ligne avec Mickaël Jacquemin. Bonsoir à vous.
Bonsoir.
Vous êtes agriculteur dans la Marne et vous êtes membre du bureau départemental de la FNSEA dans ce même département. Vous êtes président de l'ANEFA, qui est l'Association nationale pour l'emploi et la formation en agriculture et dont je précise que c'est une association paritaire. Alors Mickaël Jacquemin, vous avez des céréales, vous avez des porcs et des bovins. Peut-on commencer cette émission sans vous demander si la saison se passe bien ? Évidemment.
Eh ben écoutez, Julie, vous avez démarré vos propos par un passage pluvieux. Ben figurez-vous que dans mon secteur, dans la Marne, près de Vitry-le-François, j'ai pas eu une seule goutte.
Ah bon, d'accord.
Et je sais que j'ai quelques voisins.
On a regardé sur la météo pourtant. On a vu des gouttes.
Oui, c'est très très local. Et donc j'ai quelques voisins qui ont eu quelques 10 ou 20 millimètres. Tant mieux pour eux. Mais moi, pour l'instant, j'attends encore. Voilà.
Bon, vos pâturages sont encore un peu jaunes.
Voilà, tout à fait.
Bon, vous employez en ce moment là. Est-ce que vous êtes en ce moment entouré de saisonniers et pour quelles tâches?
Alors sur mon exploitation, j'ai 3 salariés plein temps sur la partie des grandes cultures, j'ai 5 salariés sur la partie élevage porcin, et sur la partie culture, je suis relativement diversifié avec entre autres une culture qui m'est chère, c'est la pomme de terre de consommation. Et donc on va démarrer les récoltes dans 15 jours, 3 semaines. On est en retard par rapport à la problématique de la sécheresse et de la canicule. Donc 15 jours, 3 semaines, j'ai déjà identifié et recruté une équipe de saisonniers pour venir m'aider à récolter mes pommes de terre.
Combien de salariés ? Combien de saisonniers,
donc,
pardon ?
En fait, on fait 2 équipes, une équipe le matin et une équipe l'après-midi. Donc ça représente entre 12 et 15 personnes au total sur la saison, parce qu'il y en a quelques-uns qui, quelques étudiants entre autres, on aura l'occasion d'en reparler je pense pendant l'émission, qui viennent au début de saison puis ensuite qui partent aux études.
Et peut-être que certains vous les revoyez revenir une année sur l'autre et d'autres non. On a effectivement le temps pour en parler. Alain Maurice, en tant qu'anthropologue, vous avez connu des années plus lointaines et aussi loin qu'ils vous en souviennent comme on dit. Est-ce que l'agriculture a toujours massivement tourné avec des saisonniers ?
Oui, je crois, c'est incontestable que l'agriculture est une activité saisonnière. Je rectifie un peu, c'est pas dans les années 80 que j'ai commencé à m'intéresser à
c'était
ça.
C'était quand alors?
Un peu plus tardivement quand même.
D'accord, je croyais que dès les années 80 vous étiez sur place.
C'était un petit peu avant le début de ce siècle, à partir disons 1995. Donc mes données sont un peu anciennes. Enfin oui, la saisonnalité c'est quelque chose de traditionnel. Il faut quand même ajouter, pour nuancer, que avec les techniques industrielles qui ont cours aujourd'hui en agriculture, notamment les serres chaudes, L'agriculture hors sol, etc., la saisonnalité, c'est de plus en plus bidon, en tout cas comme argument pour employer les saisonniers, puisque comme tout le monde, vous voyez sur les marchés des tomates à Noël, des fraises à Noël, et ainsi de suite.
S'il n'y a plus de saison, mais il y a encore des saisonniers.
Voilà, vous pouvez le dire comme ça.
Catherine Laurent, est-ce qu'on a une idée aujourd'hui, en France, de la part que représentent les saisonniers, ou les CDD, disons, les précaires, je ne sais pas quel est le terme que vous employez, dans la main-d'œuvre totale des exploitations agricoles?
Ça dépend si on regarde ça en termes de d'équivalent temps plein ou en nombre de personnes. En nombre de personnes, les exploitations agricoles elles-mêmes emploient plus de 600 000 salariés non permanents. Mais elles ont également recours à des entreprises de travaux agricoles, à des prestataires de services qui eux aussi fournissent, alors sous forme de prestations de services finalement, de la main d'œuvre. Et là, c'est encore plus de 200 000 personnes qui arrivent à...
Oups, ça c'est le verre d'eau qui vient de tomber, mais allez-y, continuez, on va éponger.
Qui arrive via ce canal par la prestation de services. Donc au total, c'est presque 800 000 personnes qui sont en contrat à durée déterminée, ou saisonnier, ou contrat vendange. Enfin, il y a tout un panel de statuts juridiques pour ces non-permanents.
Est-ce que progressivement, au fil des années, les non-permanents, comme vous dites, ont pris la place des exploitants familiaux qui ne travaillent plus pour beaucoup sur l'exploitation, notamment les femmes qui, pour certaines d'entre elles, sont devenues chefs d'exploitation, mais pour beaucoup d'autres, toujours épouses d'agriculteurs, ont décidé d'aller chercher un emploi ailleurs parce que le travail ne rémunérait plus et qu'elles ne pouvaient plus se permettre?
Je ne saurais pas dire ça, parce qu'en fait, il n'y a pas forcément substitution des tâches, parce qu'il y a une augmentation du nombre de non-permanents et en valeur absolue, enfin, nombre d'équivalents temps plein et un nombre de personnes, et une diminution des exploitants familiaux, enfin, de la main-d'œuvre familiale, mais il y a aussi les salariés permanents qui, eux, assurent des tâches de gestion, de suivi de la production au jour le jour, avec des tâches de décision, souvent. Et ce sont, je crois, plutôt eux qui ont pris le relais dans la gestion quotidienne de la main-d'œuvre familiale.
Michaël Jacquemin, est-ce que vous avez des membres de votre famille sur votre exploitation? Est-ce que vous dites, je ne sais pas si vos parents étaient eux-mêmes agriculteurs, mais est-ce qu'il y a eu une évolution dans le modèle d'une génération sur l'autre dans votre région?
Alors, mes parents et mes grands-parents étaient agriculteurs, donc c'est une exploitation familiale. Je suis marié avec une agricultrice, donc en fait, voilà, on est déjà deux sur l'exploitation, plus nos salariés. Et c'est vrai que les saisonniers sur l'exploitation, il y en a toujours eu. Moi, j'ai souvenir de mon grand-père qui évoquait les saisonniers. Alors à l'époque, c'est déjà, on parlait de salariés qui venaient de l'étranger. C'était souvent des Italiens qui venaient démarrier les betteraves. Alors c'est un peu technique, mais les betteraves à l'époque, génétiquement, quand on mettait une semence, une graine, il y avait plusieurs petites betteraves qui sortaient de cette graine. Et ben, pour avoir une bonne betterave bien d'une belle forme, il fallait sélectionner. Donc il fallait venir biner les deux, trois petites betteraves autour et en conserver qu'une seule. Et ça, c'était des salariés saisonniers italiens qui venaient faire ces tâches saisonnières. Donc c'est une vieille aventure, hein, les saisons et les saisonniers sur nos entreprises agricoles. Et c'est souvent aussi lié de plus en plus aujourd'hui à des stratégies de diversification. Et c'est, à mon sens, une des bonnes stratégies. On a tout intérêt, un vieil adage qui dit ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier, de diversifier. Moi, c'est la stratégie que j'ai choisie. Pourquoi diversifier? Parce que on est tributaire d'aléas climatiques, d'aléas sanitaires et des aléas aussi liés au marché. Donc voilà, la diversification nécessite
des saisonniers, nécessite des emplois plus courts. Mmh. Alors Richel Delaporte, vous avez enquêté à l'échelle du Bordelais, qui est une région très particulière parmi toutes les régions agricoles et viticoles françaises. On est face à des très grands propriétaires terriens, ce qui n'est pas le cas du Beaujolais, du vignoble bourguignon. Je vais y arriver. De tous ceux que vous avez rencontrés, Richel Delaporte, quelle part de ces saisonniers sont de jeunes Français habitants du coin ou pas, qui viennent s'offrir leurs prochaines vacances ou payer leurs études? Combien sont de moins jeunes qui ne vivent que de ça? Combien viennent de l'étranger? Combien ne rentrent pas dans ces catégories? Enfin, quels sont les profils que vous avez rencontrés?
C'est difficile de donner des chiffres parce que justement...
Vous, c'est l'humain. qu'on veut écouter.
La question justement des travailleurs étrangers est une vraie question parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont employées hors contrat, c'est-à-dire au noir, parfois via les prestataires de services dont on parlait tout à l'heure. Et la prestation de services s'étant énormément développée, c'est-à-dire que c'est de la sous-traitance, les châteaux n'embauchent plus forcément directement les travailleurs avec des contrats qui passent par les châteaux, mais plutôt par les prestataires de services. Donc, finalement, la question de comment ils sont, comment ils mangent, où est-ce qu'ils dorment, comment ils sont payés, ça revient à la prestation de service, au prestataire de service. Et le prestataire de service, il fait un peu ce qu'il veut. Donc, très vite, on se retrouve avec pas mal d'immigration. Alors, il y a plusieurs types d'immigration, mais moi, j'ai rencontré, par exemple, beaucoup de Marocains qui venaient chassés par la crise d'Espagne, chercher du travail dans le Bordelais pour faire les saisons, mais en fait toute l'année, parce que la saisonnalité, en fait, dans le vin, c'est toute l'année. Et c'est ça qui est un petit peu difficile à comprendre, c'est qu'on imagine toujours, on est un peu une carte postale idyllique de faire ses saisons quand on est étudiant, et donc c'est en septembre, en octobre, et en fait, en réalité, il y a besoin de personnel toute l'année. Et qui va travailler dans ces exploitations et dans ces vignobles-là toute l'année avec des salaires assez bas, ben ce sont les étrangers, ce sont les immigrés.
Les immigrés, il y a aussi des Français comme Pierre, dont vous faites le portrait dans votre livre. Il est saisonnier depuis 30 ans, il fait les saisons partout, et vous écrivez, vous, Excel Delaporte, qu'il est une incarnation de la flexibilité. Quelle est la part de choix dans sa vie? Sans doute aussi qu'il apprécie la liberté dont il jouit en faisant les saisons.
Les personnes que j'ai rencontrées, qu'on appelle des locaux, en fait, qui sont ceux qui vivent sur le territoire et qui n'ont jamais bougé et qui travaillent de génération en génération dans la vigne, c'est des personnes qui sont déjà extrêmement précaires dès le départ. C'est-à-dire que c'est des gens qui n'ont pas accès à la mobilité. Il y en a qui ne connaissent même pas Bordeaux, qui n'ont pas pu vraiment avoir accès aux études, pour qui, en fait, la vigne était le seul débouché de travail immédiat, parce que, évidemment, ça ne demande pas forcément de grandes études, les petites façons, ce qu'on appelle les petites façons, donc les petits travaux de la vigne. Et donc, effectivement, eux n'ont pas vraiment le choix et ne se posent même pas tellement la question de savoir si ce qu'ils font est bien ou pas. N'empêche qu'au fur et à mesure, les jeunes se rendent compte que c'est des travaux qui sont très difficiles, que ça crée énormément de maladies professionnelles, que la plupart des jeunes autour d'eux, dans leur famille, ont des personnes qui ont des cancers, qui ont des problèmes de dos.
L'utilisation des produits chimiques,
voilà,
dans le vignoble bordelais.
Absolument. Et que donc, tout ça fait que effectivement, les locaux, ils ont aussi de moins en moins envie de travailler dans la vigne. Et ce qui fait que ce sont souvent les étrangers qui prennent ces places-là, parce que les salaires sont trop faibles, parce qu'au final, on ne s'y retrouve pas.
Alain Maurice, depuis quand est-ce qu'on fait appel à la main-d'œuvre étrangère saisonnière dans nos exploitations agricoles françaises?
Je ne peux pas vous dire, mais je crois que c'est très ancien. D'ailleurs, c'est ce que a dit M. Jacquemin. Enfin, il y avait déjà des Italiens, il y a des cycles. Si vous voulez, si je m'en tiens à la période où officiellement on a stoppé l'immigration de travail en juillet 1974, les cycles ont été successivement beaucoup les Italiens, les Espagnols et les Portugais. Les Sidaliens, c'était plus ancien. Tout à l'heure, il parlait du démarrage des betteraves. Ça a été aussi beaucoup le cas des Belges dans la plaine au nord de Paris il y a très longtemps.
Donc une immigration assez proche, de proximité.
Et puis après, ils sont rentrés dans l'Union européenne, les Espagnols, les Portugais, et on a eu le cycle surtout, des Yougoslaves, puis des Marocains et des Tunisiens, surtout Marocains d'ailleurs. Et puis après, ça s'est un peu diversifié. La diversification s'est tournée vers des pays de l'Europe de l'Est, notamment la Pologne, avant qu'elle intègre les Roumains aussi, avant qu'elle n'intègre l'Union européenne, les Ukrainiens, et puis il est resté des Marocains. Et puis maintenant, par l'intermédiaire de ces agences dont il faudra peut-être parler, qui sont des agences prétendument d'intérim, mais en fait de prêt de main-d'œuvre à la limite de la légalité, on introduit des travailleurs latino-américains. par le biais de l'Espagne.
Michael Jacquemin, est-ce que vous faites appel à ces agences d'intérim certaines sont aujourd'hui pointées du doigt, notamment, enfin certaines sont même traînées en justice parce que pour certaines, elles font des heures non déclarées, des questions de menaces, d'abus. Je pense à ces saisonniers espagnols dans le sud de la France qui poursuivent en justice une entreprise d'intérim spécialisée dans l'emploi de saisonniers parce que voilà, l'un d'entre eux raconte, il travaille 7 jours sur 7, 10 à 13 heures par jour pour 1 500 euros net les bons mois, avec des fiches de paie qui évoquent 5 à 10 jours de travail par mois. Est-ce que vous travaillez avec des agences ?
Alors moi pour ma part, non, j'ai la possibilité de recruter en local. Moi, je souhaite rebondir quand même sur ce sujet qui est quand même très, très important, me semble-t-il. Il y a sur le territoire énormément de sociétés de prestations qui se sont montées. Alors pour certaines, elles ne sont pas légitimes ou elles sont frauduleuses. Et on a les services de l'administration, la directe en l'occurrence, donc l'inspection du travail, qui fait son travail. On a la MSA également, qui fait en sorte d'enquêter et de faire en sorte de contrôler au maximum pour pénaliser ce travail illégal. Et c'est stratégique, et nous, on le défend, ce contrôle, parce que il y a distorsion de concurrence. Tous les employeurs qui feront appel à ce type de prestations, qui est forcément a priori moins cher, c'est la distorsion de concurrence, et ça, c'est inadmissible. Donc, faisons en sorte qu'il y ait encore plus de contrôle sur ces suspicions de travail illégal. Mais par rapport à ça, moi, les chiffres que j'en ai, c'est que il y a tous les ans 1 100 000 contrats signés saisonniers. Donc, tout à l'heure, on parlait de 600 000 salariés, mais là, on parle par rapport aux contrats. Parce que des salariés signent plusieurs contrats, et comme ça a été évoqué, certains, c'est un choix de vie, font le choix des saisons, et en faisant de l'itinérance sur tout le territoire, arrivent à en fait cumuler un certain nombre de saisons et d'avoir au final, à la fin de l'année, une capacité à avoir un pouvoir d'achat suffisant.
Donc 1 100 000 contrats.
Par contre, du groupement d'employeurs. Donc ce sont des organisations que la profession agricole a mis en œuvre sur tous les territoires. Les groupements d'employeurs. L'intérêt du dispositif, c'est que c'est le groupement d'employeurs qui embauche des salariés. Alors, si possible en CDI, ça peut sécuriser un bon nombre de salariés. Et ensuite, mettre à disposition des utilisateurs sur des périodes courtes ou moins courtes. Alors, pour des saisons, pour des périodes de vacances, pour des périodes d'arrêt maladie, etc., etc. Et donc ça, c'est une vraie force quand même pour notre profession, c'est de pouvoir donner la capacité à des personnes qui sont a priori pas qualifiées, pas d'expérience, de pouvoir rentrer dans nos entreprises agricoles. Et ça, les saisons, j'ai envie de dire, de positiver quand même, c'est une force.
Alors, je voudrais faire réagir Catherine Laurent sur ce que vous venez de dire, Michael Jacquemin. C'est vrai que comme vous n'êtes pas en studio avec nous, c'est plus compliqué d'organiser les échanges. Mais Catherine Laurent, c'est vrai qu'il y a eu par le passé ces initiatives pour, disait-on, sécuriser les parcours des saisonniers, ces groupements d'employeurs dont le principe c'est que plusieurs employeurs qui emploient des saisonniers se regroupent pour faire en sorte de proposer des temps pleins à eux tous. Est-ce que ça a pris en France ou est-ce que Michael Jacquemin est une des exceptions ?
Alors, moi, j'étais quelqu'un qui a défendu dans les débuts des années 2000 vraiment le développement des groupements d'employeurs et la dynamique que ça pouvait représenter. Cependant, malheureusement, ce qu'on observe aujourd'hui, c'est que les groupements d'employeurs créent beaucoup plus de contrats à durée déterminée que de contrats à durée et indéterminée, comme c'était leur objectif initial. Et par ailleurs, on observe, alors il y a effectivement les groupements dans leur forme idéale typique, qu'elle vient d'être décrite, mais il y a aussi des groupements maintenant qui sont au niveau départemental, par exemple, avec des centaines d'adhérents, et donc des salariés qui vont aller de période de pointe en période de pointe dans les exploitations. Et ça crée un double problème. D'une part, l'exploitant, à ce moment-là, perd le contrôle, enfin, perd le lien avec ce salarié. C'est vraiment quelqu'un qui passe très peu de temps pendant la période de pointe. Et d'autre part, pour les salariés, c'est vraiment sont des conditions de travail très difficiles.
Alain Maurice, vous souhaitiez réagir ?
Oui, je peux difficilement laisser passer sans réagir l'idée que la direction régionale de l'emploi et du travail, la DIRECT, fait son travail. La DIRECT a pointé, je cite, un système collectif et organisé de fraude au détachement, de travail dissimulé, de prêts illicites de main-d'œuvre et de marchandage en 2014.
Donc elle a fait son travail.
Si elle... dont on peut dire le nom, Terra Fecundis, il est dans tous les articles de presse.
C'est elle qui est aujourd'hui...
Oui, c'est une société dont je connais bien l'histoire, qui avant faisait du prêt illicite de main d'œuvre et qu'on a invité à se mettre en intérim pour faire de la, de, pour faire du prêt illicite de main d'œuvre déguisé. Bon, elle continue à faire ça. Je pourrais expliquer ce que c'est, mais ça, c'est un peu technique. Mais en attendant, Terra Fecundis, donc, est sous le coup d'une procédure judiciaire depuis 2014, septembre 2014, c'est-à-dire, si je compte bien, à un mois près, 5 ans. Dire que les pouvoirs publics, que ce soit la directe ou les autorités font leur travail, je trouve ça un tout petit peu excessif. Ils ne font pas leur travail, ces dossiers n'avancent pas, ils sont enterrés. Il n'y a pas que celui-là, il y a d'autres...
Vous dire, il n'y a jamais d'autres. De réponse de la justice quand des saisonniers saisissent la justice.
Extrêmement peu, et les réponses de la justice que je connais, très souvent, blanchissent les employeurs frauduleux.
Ixchel Delaporte, dans le Bordelais, il y en a plein, des agences de placement, ces sortes de boîtes d'intérim spécialisées dans la viticulture, et qui marchent comment?
Mais ces prestataires de services, ils poussent comme des champignons, en fait, dans le Bordelais. Ils ont des marges très rapidement, en fait. Ils gagnent de l'argent très vite, très facilement. Ils ouvrent des sociétés un peu chez eux, en fait. Hein. C'est pas très contrôlé, tout ça. Hein. C'est des boîtes postales, c'est des lieux qui sont difficiles à contrôler. Et elles peuvent se refermer aussi vite qu'elles sont apparues. Elles peuvent même aussi aller dans un autre département pour éviter les contrôles. Donc, ils savent très bien, d'une certaine manière, jouer sur la limite de la légalité pour pouvoir faire des marges sur le travail de main-d'œuvre de travailleurs qui savent ni lire ni écrire, qui comprennent pas très bien les fiches de paye, qui savent pas quand le travail supplémentaire, les heures supplémentaires ne sont pas payées, qui ne comprennent pas très bien s'ils sont licenciés, s'ils ont des droits et à quoi ils ont droit. Donc ils jouent beaucoup aussi sur la fragilité des personnes qui viennent travailler au sein de ces vignobles.
Michaël Jacquemin, vous avez une assez petite exploitation par rapport à d'autres et vous n'employez cet été que, en tout cas en termes de saisonniers, vous n'en employez que 13, nous avez-vous dit tout à l'heure pour la saison à venir. Mais est-ce que vous pensez que, et surtout vous ne faites pas appel à ces agences d'intérim, mais parmi tous vos collègues qui font appel à ces boîtes et qui leur demandent de leur trouver des employés, est-ce que vous pensez que tous ont le temps de discuter avec les saisonniers, de savoir d'où ils viennent, de savoir comment ils sont traités, de regarder les feuilles de paye qu'on leur tend à la fin du mois et si elles correspondent au travail effectif. Enfin, est-ce que vous avez le temps de faire ce travail-là ?
Alors, revenir sur Terra Fecundis. Alors évidemment, nous, la profession, on dénonce absolument et on a fait le nécessaire pour dénoncer, et c'est une concurrence déloyale et c'est pas supportable par rapport à tous ceux qui travaillent dans la légalité. Donc ça, on le dénonce largement. Ensuite, si des collègues d'autres régions, parce que bon, dans ma région, c'est pas très très répandu malgré tout, hein, ce type de dispositif, mais font appel à ce type de prestations, c'est parce qu'en fait, il y a pénurie et de eux-mêmes, avec leur réseau, n'arrivent pas à trouver la main-d'œuvre nécessaire, souvent pour les récoltes, parce que bon, les grosses périodes de saison, c'est quand même les récoltes, et souvent, malheureusement, il n'y a qu'une seule récolte par an dans nos productions, et on n'a pas vraiment le droit de la louper. Et donc, ils sont obligés de se retourner, alors, soit c'est des agences d'intérim bien connues françaises, soit c'est des prestataires qui se sont diversifiés, alors parfois ce sont même, quand on parle de vignerons, ce sont parfois même des vignerons qui ont développé une activité de prestation en parallèle de leur vignoble, parce qu'ils ont le matériel, parce qu'ils ont un réseau, parce qu'ils ont des compétences, et parce qu'ils ont aussi tout un staff administratif pour organiser l'embauche, toute la partie RH, parce que ça aussi, c'est une des problématiques. Alors, la norme, il faut réglementer, il faut surveiller, il faut contrôler, évidemment. Mais sachez qu'aujourd'hui, les employeurs sont... les agriculteurs en général, avec un A majuscule, hein, toutes branches confondues, l'élevage, la viticulture, etc. On doit être multitâche. On doit être très technique, on doit être très économique et on doit être aussi DRH. Et sur des toutes petites entreprises. Et pour certains, c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Et s'il y a bien un sujet qu'ils veulent se soulager le plus facilement, bah, c'est la partie RH. la partie fiche de paye, la partie embauche, et ils font appel à des prestataires. Alors, c'est une des problématiques que moi je rencontre sur mon entreprise aussi, où c'est vrai que il y a des fois c'est quand même compliqué de respecter toutes les normes et cette partie administrative qui est très très lourde.
Et de trouver de la main d'œuvre locale, disent les agriculteurs de France. Je cite une annonce que nous avons trouvée qui date du 25 juillet 2019. Nous recherchons 6 cueilleurs, cueilleuses à l'heure sur le secteur de Rilly-la-Montagne. Poste non logé, non nourri. Un local sera tout de même mis à votre disposition pour vous restaurer. Pas de terrain à disposition. Vous devez être autonome pour vous rendre sur le lieu de travail. C'est vrai que ce sont des annonces dont on peut comprendre qu'elles n'attirent pas les foules. Mais, Catherine.
Je peux réagir là-dessus.
Rapidement, s'il vous plaît, parce que je voudrais faire réagir les autres invités en plateau.
La personne qui a déposé cette annonce, elle a des logements. J'en suis quasiment persuadé, parce que historiquement, tout le monde logeait. Mais aujourd'hui, les logements sont plus normes. Ils n'ont absolument plus le droit. Alors, parce que ça ne fait pas 9 mètres carrés. Normalement, il doit y avoir 9 mètres carrés minimum par personne. Alors, ça peut se comprendre. Mais parfois, pour une période de récolte des vendanges, par exemple, dans le Champagne, chez moi, tout près de chez moi, malheureusement, j'en ai pas, mais tout près de chez moi, c'est entre 7 jours et 10 jours. Donc, investir dans du dur, dans des locaux pour 7 à 10 jours, les gens font appel à des prestataires et les prestataires, eux, sous-traitent et souvent louent ou sous-louent des maisons, des hôtels,
Et pas toujours eux-mêmes aux normes, puisqu'on a vu là à Saint-Tropez des pompiers qui ont retrouvé des saisonniers, alors c'était dans l'hôtellerie-restauration, mais des saisonniers logés dans des caves. Catherine Laurent, la question de la pénurie de la main-d'œuvre en France, quelle réalité d'après les chiffres et les études que vous avez faites?
On n'a pas travaillé vraiment sur la pénurie de la main-d'œuvre, mais récemment on a quand même fait des enquêtes et c'est vrai que la question de la difficulté de trouver de la main-d'œuvre, il faut aussi la regarder du point de vue des travailleurs en question. Et le type d'annonce que vous venez de citer, on en a quand même un certain nombre, et c'est vrai que dans les enquêtes, les personnes qui se plaignent le plus de ne pas trouver de main-d'œuvre, ce sont les personnes qui passent ce type d'annonce ou qui estiment, enfin moi j'ai fait des enquêtes dans la région d'Agen par exemple où il fallait que les gens aient une voiture pour venir qu'ils se logent, impossible de se loger dans le coin parce que c'est très touristique et que c'est très cher et donc c'était minimum 25 km aller, 25 km retour, une voiture et ensuite avec un salaire très bas. Avec cerise sur le gâteau, le fait que l'an dernier, moins d'une semaine avant le début de la récolte, on a dit le cours du pruneau est trop bas. Cette année, on récolte pas ce qui tombe sous les arbres, on va récolter que par les machines dans certaines exploitations. Donc, dit l'agriculteur, moi je ne prends personne cette année. C'est très hétérogène selon les agriculteurs. C'est ça aussi que j'entends dans ce que dit notre collègue à distance, c'est que pour certains agriculteurs, ils fonctionnent pas du tout comme ça. Pour d'autres, en effet, c'est vraiment de l'ajustement à juste temps, quel qu'en soit le coût pour les salariés.
Ixelles Delaporte, puis Alain Maurice.
Oui, moi, ce que j'ai remarqué dans l'enquête que j'ai faite, c'était de voir cette contradiction très forte. À la fois, ils se plaignent de pas avoir de main d'œuvre, mais à la fois, il faut aussi se rendre compte qu'ils ne sont pas les bienvenus dans la région.
Ils ne sont pas les bienvenus.
Les travailleurs saisonniers sont pas les bienvenus, on les voudrait invisibles. On aimerait qu'ils n'apparaissent qu'au moment où ils viennent travailler et qu'après ils disparaissent. Par exemple, le nombre de travailleurs espagnols, portugais, italiens que j'ai vus avec des camions, des fourgons qui ont choisi effectivement un mode de vie un peu alternatif, on ne veut pas les voir. Donc ils se retrouvent où ? Ils se retrouvent au milieu de la forêt, sans eau, sans électricité. Ils se retrouvent à côté de décharges. Ils se retrouvent dans des lieux, en fait, qui sont totalement insalubres et qui ne leur permettent pas d'avoir un rapport à ce travail de qualité. La question de la qualité de vie va avec la question de la qualité du travail.
Mais Alain Maurice, l'inspection du travail n'intervient jamais sur les exploitations pour venir sanctionner ceux qui doivent l'être.
Les travailleurs agricoles sont extrêmement faibles. Dans les Bouches-du-Rhône, quand je faisais mes enquêtes, c'était un inspecteur et deux contrôleurs. Les Bouches-du-Rhône représentaient à peu près 30% du maraîchage et de la récolte de fruits à l'époque. Bon, enfin, non, c'est pour vous dire qu'il y a une disproportion. Je voudrais revenir sur cette histoire de pénurie. Comme vient de le dire Catherine, c'est ça, beaucoup de choses ont été dites maintenant, ils veulent avoir le travail sans avoir le travailleur. Ils veulent pas que les gens s'installent, voilà, c'est une obsession. Je voudrais quand même revenir un petit peu sur cette histoire de pénurie. Le truc assez classique, la complainte classique, c'est de dire oui, les Français veulent pas le faire. C'est valable aussi pour balayer les rues, c'est valable pour la construction. C'est un argument patronal de tous les temps. la pénurie, elle est très relative. Effectivement, quand on les interroge sur, comme ça a été fait tout à l'heure, sur la question du transport, la question du logement, la question des conditions de travail et la question du salaire, moi, dans mes enquêtes, les gens disaient, effectivement, oui, je reconnais, je bute sur la question du salaire. Et j'inverse la proposition populaire très classique, à savoir les Français veulent pas s'en occuper, en disant, les employeurs ont une réelle préférence pour la manœuvre étrangère. Parce que cette manœuvre représente des attributs supposés de disponibilité et de soumission assez considérable. Et donc ça joue, et en fait on peut l'analyser comme une sorte de rencontre d'intérêt profondément dissymétrique évidemment, mais l'employeur lui va chercher une manœuvre plus facile à corvéer, et les personnes elles-mêmes qui viennent des douars marocains ou du fin fond de l'Ukraine ou de l'Équateur ont également intérêt à faire un maximum d'argent en un minimum de temps, d'où le fait qu'ils vont effectivement passer sur les conditions très foraines et très injuste de logement et d'accommodation en général.
Michael Jacquemin, vous, dans votre exploitation, quand vous avez des saisonniers, quelle part de saisonniers viennent hors des frontières de France, voire de l'Union européenne ?
Alors, sur mon entreprise, très saisonnier, moi ça fait très très longtemps que j'ai une équipe stabilisée avec un tout petit turnover, mais donc j'ai la chance d'avoir en fait des salariés qui font au maximum 15-20 kilomètres, quoi. Voilà, c'est très très local.
Et vous les embauchez pas à la fin de plusieurs contrats, vous leur proposez pas un CDI?
Non, mais malheureusement, moi, la récolte de pommes de terre, ça dure 15 jours. Donc, j'ai déjà, donc, 8 CDI, 3 sur la grande culture, 5 sur l'élevage, 13 saisonniers, et une fois que les récoltes de pommes de terre sont finies, si vous voulez, moi, j'ai pas les moyens d'avoir autant de salariés sur mon entreprise. Alors, après, je voudrais quand même redonner une vérité. Moi, j'ai des collègues qui font appel à de la main-d'œuvre étrangère, alors parce qu'ils trouvent pas de main-d'œuvre française disponible et prête à vouloir travailler.
Alors que dans la Marne, il y a un dispositif qui permet de cumuler les RSA avec un salaire de saisonnier, et même là, vous trouvez pas.
Oui, oui. Alors, je peux vous donner aussi quelques chiffres sur ce dossier RSA dans mon département. Bon, toujours est-il
alors,
que...
Alors oui, parlez-nous de vos collègues.
C'est pas pour une histoire de coût. Il faut que ça soit bien clair au niveau de vos auditeurs. Un employeur agricole qui cherche des saisonniers, s'il fait le choix de salariés étrangers, ça lui coûtera pas moins cher. Par contre, il est sûr que le matin, à 7h, à 8h, les salariés seront présents, seront au travail.
Voilà. Et pas les autres?
Ben les autres, c'est plus compliqué. Ou alors, quand on démarre une saison qui va durer un mois, et ben au bout de 2 jours, il en manque déjà un bon pourcentage. Et c'est compliqué d'organiser un chantier de récolte quand le matin, on ne sait pas si les salariés seront présents au bout du champ.
Catherine Laurent, salaire identique pour un même travail au même endroit, c'est ce qu'une directive européenne de 2017 a instauré pour les travailleurs détachés. Donc, normalement, dans les faits, il n'y a plus de dumping social, il n'y a plus de concurrence déloyale entre les salariés de pays différents. Dans les faits, je veux dire, dans les textes, mais dans les faits.
Dans les faits, c'est très difficile. Honnêtement, je ne peux pas vous répondre parce que il faut, sur les salariés détachés, il est très difficile de rencontrer ces salariés. Il est très difficile de leur parler. Ils ont peur souvent. Les exploitants agricoles vous pouvez avoir dans une même commune un exploitant agricole qui va dire, moi j'ai embauché des salariés détachés. Quand j'ai vu leurs conditions de travail, j'ai plus jamais eu recours à ce type de travail.
À cause des agences intermédiaires dont on parlait tout à l'heure.
À cause du fait que des salariés se sont confiés à lui, lui ont dit qu'on leur avait pris leur passeport, qu'on les avait pas payés, etc. Mais c'est très difficile d'avoir accès à ces salariés. Il y a quand même aussi des réseaux semi-mafieux. Il y a des gens quand même qui se font menacer quand ils veulent parler. Enfin, on n'est pas quand vraiment on rentre dans cette catégorie de travailleurs, la situation est très difficile. Et je voulais juste dire une chose par rapport à cette histoire de demande et de rencontre entre offre et demande d'emploi, c'est que moi j'ai été fascinée en faisant des enquêtes dans une commune, en voyant des agriculteurs ayant la même production dans la même commune.
Où ça ?
Dans le centre de la France, enfin dans la région de production de pruneaux d'Agen, d'avoir vraiment des stratégies complètement différentes. C'est-à-dire celles décrites par Monsieur Jacquemin sur son exploitation, donc des gens qui travaillent avec des équipes qu'ils ont fidélisées, parce qu'ils ont de bonnes relations avec eux, des gens qui traitent qui vont avoir recours à des prestataires, d'autres qui disent c'est quand même pas mirobolant ce qu'on fait et qui vont du coup faire de l'emploi, loger les gens. C'est dans la même commune, pour la même production, c'est très, très divers.
Mais surtout, Alain Maurice, est-ce que c'est aux agriculteurs qu'il faut jeter la pierre, sachant que par ailleurs, les agriculteurs, on sait combien ils souffrent aujourd'hui, on sait combien ils sont victimes de traités de libre-échange, disent-ils en tout cas, qui les défavorisent, on sait combien il est difficile pour eux, je sais pas, on peut citer tellement de choses, la MSA qui met en place une ligne directe d'écoute pour les agriculteurs qui sont en détresse et qui, quand ils décrochent, disent « mais au fait, vous nous devez beaucoup d'argent ». Bon bref, en tout cas, et qui surtout ne peuvent pas eux-mêmes se payer un salaire. Donc comment peuvent-ils faire autrement que tout ça et qui a organisé ça?
Oui, non, il y a une détresse épouvantable. Moi, à l'époque où je faisais des enquêtes, disons au début des années 2000, dans la période intersensitaire précédente, c'est-à-dire entre deux recensements agricoles, sur les Bouches-du-Rhône, dans les Bouches-du-Rhône, la surface agricole utile n'avait pas changé, le nombre d'exploitations a été divisé par deux. Et je connaissais bien des gens qui s'occupaient des agriculteurs en détresse, avec tout ce que ça implique, et c'est horrible. Voilà. Maintenant, dans les enquêtes que je faisais, quand je posais des questions, je disais justement, on bute sur la question du salaire, des conditions, etc., on me répondait, oui, mais on est obligé, on n'a absolument pas le choix. Et effectivement, ils se sont rendus, et ça c'est pas eux, mais leurs aînés, depuis que bien avant, le Centre National des Jeunes Agriculteurs dans les années 60, victimes de l'industrialisation à outrance et du fait qu'effectivement la concurrence des prix au niveau mondial, maintenant les plus malins par exemple des agriculteurs, le dessus du panier, il y a longtemps qu'ils ont été investir au Maroc, la région de Kenitra ou même beaucoup plus loin encore vers Marrakech, et maintenant c'est là qu'on fait le maraîchage, et les Espagnols ont compris ça bien avant les Français.
Et les travailleurs saisonniers viennent
si ça se trouve,
du sud de la France.
Par exemple dans les Bouches-du-Rhône, il y aura peut-être plus d'agriculture du tout dans 15 ans. C'est pas du tout impossible parce que ils vont toujours au plus loin. Et donc, ils sont complètement victimes d'un système. Et de ce point de vue-là, évidemment, toujours, ils m'ont dit la même chose. La main-d'œuvre agricole, saisonnière et étrangère, c'est ce qu'ils appellent notre variable d'ajustement. Voilà comment on parle de personnes humaines dans l'agriculture. C'est notre variable d'ajustement. Et de toute façon, attendez, j'ajoute quand même quelque chose concernant ce qu'a dit Michael Jacquemin, qui est très juste, à savoir, en théorie, en tout cas, un ouvrier saisonnier par une agence d'intérim, ça coûte forcément plus cher, parce qu'il faut également payer
l'agence d'intérim,
le voyage éventuellement, etc. Oui, ça coûte plus cher. Sauf que vous avez une calamité que tout le monde connaît, et je rejoins ce qui a été dit tout à l'heure par Catherine, à savoir que c'est difficile d'enquêter là-dessus, mais tout le monde le sait, le travail dissimulé dans l'agriculture, c'est le non-paiement des heures supplémentaires. Et la non-déclaration des heures supplémentaires qui représente, d'après les estimations faites par des gens très sérieux que j'ai connus, à peu près au moins la moitié de la force de travail mise en jeu. C'est absolument considérable. Vous n'allez dans une exploitation, vous ne verrez jamais, au moment des cueillettes, quelqu'un travailler 7 heures par jour. Ça n'existe pas.
Ixelles Delaporte, est-ce qu'il y a quand même des avantages à être saisonnier? Je veux dire, est-ce que le droit prévoit certaines protections, certains avantages?
Des avantages en nature, oui, puisqu'ils reçoivent du vin, par exemple, dans le Bordelais. Donc, ils peuvent recevoir des caisses de vin et qu'ils peuvent après revendre. Et bien sûr, il y a ça, mais il y a effectivement aussi des intéressements pour ce qui concerne, par exemple, les grands crus. Mais il faut quand même savoir que dans le Bordelais, c'est 20% les grands crus et 80%, le reste, c'est des exploitations ou familiales ou des exploitations, des petites exploitations. Donc, on revient un peu à ce qu'on disait tout à l'heure sur, effectivement, les viticulteurs qui ont des petites exploitations n'ont effectivement pas beaucoup le choix. Et souvent sont obligés de faire appel à des prestataires de services ou même d'employer directement des préfetteurs, des gens qui travaillent à l'heure et qui doivent faire le plus de travail possible pour gagner le plus d'argent possible. Mais il faut dire que ces viticulteurs aussi, ils sont pieds et poings liés par les prix du marché, c'est-à-dire à qui ils revendent leur vin. Ils revendent leur vin à la grande distribution, ils revendent leur vin à ceux qui possèdent finalement le gros du bataillon, c'est-à-dire ce qui va faire le maximum des exportations en vin en France, c'est-à-dire Pierre Castel, par exemple, qui est une des plus grosses fortunes de France. C'est à ces gens-là qui vendent le vin. Donc eux, en fait, ils sont soumis aussi au prix comme les producteurs laitiers sont soumis par rapport au prix du lait. Il y a quelque chose aussi de cet ordre-là qui fait que la chaîne elle-même oblige à un moment donné à ne donner que des très bas salaires ou à même à tricher. Mais je pense qu'il faudrait prendre le problème à l'envers. La question du salaire, c'est une question centrale. La revalorisation des salaires pourrait être une solution aussi pour faire que les Français aient aussi envie, ceux qui sont sur le territoire aient envie d'avoir accès à ces emplois-là, de leur donner plus de possibilités de mobilité, puisque la mobilité, c'est un des freins les plus forts aussi, c'est-à-dire que les gens n'ont pas assez d'argent pour s'acheter une voiture, pour payer de l'essence, on en est là. Je veux dire, la crise des Gilets jaunes, elle raconte ça aussi.
Michaël Jacquemin, est-ce que vous auriez les moyens, vous et vos collègues avec qui vous discutez de tout ça, notamment à la FDSEA de la Marne, de revaloriser les salaires, et notamment des saisonniers?
Alors, on le fait tous les ans. Sachez qu'au niveau national, il y a 144 conventions collectives. Alors, donc, ça veut dire qu'il y a plus de conventions collectives que de départements. Et dans tous les départements, donc, ces conventions collectives sont négociées au minimum une fois par an, voire deux fois. Et donc, il y a le salaire, c'est une chose, c'est la partie visible de l'iceberg. C'est ce que souvent les salariés retiennent à l'issue de la négociation. Mais il y a tout le reste aussi. Il y a tous les accompagnements d'assurance, etc. Sachez que la branche agricole, c'est la seule qui avait obligé, par un accord cadre au niveau national, la complémentaire santé obligatoire depuis bien longtemps. Bien avant qu'elle le soit rendue obligatoire pour toutes les autres branches professionnelles. Donc voilà, on sait négocier. Alors parfois les salaires, et c'est aussi une force, c'est d'avoir plusieurs conventions collectives qui nous permettent de pouvoir arbitrer dans des secteurs très très concurrencés. Alors le maraîchage par exemple, ça a été souvent évoqué, où il y a une concurrence énorme de pays étrangers. Le problème, c'est pas le salaire en lui-même qui est cher, ce sont les charges. Alors, on a réussi avec le gouvernement progressivement à obtenir des réductions, des exonérations de charges. C'était un minimum pour essayer de combattre ce problème de compétitivité.
Michaël Jacquemin, on arrive bientôt à la fin de cette émission et je voudrais vraiment déjà faire réagir nos invités à ce que vous venez de dire et aussi sur la question très rapidement de la réforme de l'assurance chômage et ce bonus-malus qui va être imposé aux employeurs qui emploient beaucoup en contrat court, donc qui se séparent très souvent de leurs salariés pour les établissements de 11 salariés ou plus. A priori, ça ne vous concerne pas, mais dans quelle mesure ça va concerner les agriculteurs et est-ce que vous estimez que ça va les fragiliser surtout?
Alors, pour le moment, nous, la branche agricole, on est plutôt satisfait. Le gouvernement nous a entendus. Ils ont bien compris que faire le choix d'avoir des saisonniers sur nos entreprises agricoles, c'est pas un choix de gestion d'entreprise, c'est pas un choix RH. On le subit. Voilà, nos saisons, on les subit. Alors, et donc, qu'on ait affaire à des saisonniers, c'est normal et c'est légitime. Donc, pour le moment, a priori, pas de malus et tant mieux.
Yxelles Delaporte et Alain Maurice, pour conclure et pour réagir à ce que vient de dire Michaël Jacquemin.
Et je pense que le problème, c'est qu'on tire la qualité du travail vers le bas et que ça fragilise d'autant plus la plupart des salariés et ça fragilise d'autant plus ceux qui viennent de l'étranger, comme ces travailleurs détachés dont on parlait tout à l'heure, que moi-même, j'ai pas réussi à rencontrer non plus, mais dont j'ai des témoignages qui sont assez accablants sur le fait qu'il leur arrive parfois de ne pas du tout être payés et de ne pas avoir la possibilité de se défendre et de devoir revenir l'année d'après alors qu'ils n'ont pas été payés.
Catherine Laurent.
Juste pour la fin, je pense qu'il faut quand même garder en mémoire le fait que en valeur absolue, la proportion de travail non permanent dans l'agriculture augmente chaque année depuis plusieurs années. Donc il va vraiment falloir traiter cela sur le fond et il y a vraiment du grain à moudre.
Alain Maurice, et c'est de circonstance, Alain Maurice, est-ce que ça reste quand même un moment encore un peu joyeux, les vendanges, les saisons encore un petit peu festives? Parce qu'à vous entendre, c'est complètement perdu cette ambiance-là.
Je peux vraiment pas vous dire parce que j'ai fait les vendanges dans des conditions qui étaient plutôt familiales. Non, mais il y a vraiment longtemps.
C'était, où ça? C'était forcément dans le Beaujolais, si c'était festif. Ah, dans le Var. Bon.
Non, on s'amusait bien, c'était un chantier sympa. Mais c'était très exploité aussi quand même. Hein. Non, mais ça, je voudrais quand même ajouter les charges. Bon, c'est déjà significatif d'appeler charges quelque chose qui officiellement s'appelle cotisation sociale. Alors maintenant, s'ils sont écrasés pour les charges, quel aveu!
Merci.
C'est la raison pour laquelle on fait appel.
Merci Alain Maurice. C'est la fin de cette émission. Merci à vous d'avoir été avec nous, ainsi qu'à vous, Yxelles Delaporte, Michaël Jacquemin et Catherine Laurent. Je ne peux pas redire toutes les références de vos ouvrages, mais nous les mettons sur notre site internet. Merci à l'équipe du Grain à Moudre d'été, Stéphanie Villeneuve, Aliette Ovine, Léa Capuano, Valentin Berg et Roxane Poulain. L'émission a été réalisée par Milena Elig avec à la prise de son Alex Dang. Dans un instant, matière à penser.